pas du vent. Le magazine de l'environnement.
Bonjour. Bonjour, nous aimerions aller au 61 rue du Faubourg Saint-Denis dans le 10e à Paris. Merci.
Anne-Cécile Barra.
Bonjour à tous, les lauréats du prix Goldman pour l'environnement, l'équivalent du prix Nobel, ont été dévoilés le 23 avril à San Francisco. Ce prix, créé en 1990 par le philanthrope californien Richard Goldman et sa femme, récompense chaque année des défenseurs de l'environnement de 6 zones géographiques. La promotion 2018 a récompensé pour l'Afrique Makoma Leka Lakala et Liz McDead, qui ont réussi à faire échouer l'achat par le président sud-africain de 10 centrales nucléaires à la Russie. En Asie, c'est la vietnamienne Can Yui Thi qui se bat contre la dépendance de son pays au charbon. En Amérique du Nord, Lee Ann Walters, une femme au foyer, a été distinguée pour avoir créé un mouvement citoyen qui a permis de révéler la crise de l'eau contaminée de Flint dans le Michigan. En Amérique centrale, c'est Francia Marquez qui a réussi à organiser les femmes de la Toma dans la région de Coca et à faire pression sur le gouvernement colombien pour arrêter l'exploitation illégale de l'or sur les terres ancestrales. Aux Philippines, Manny Calonzo a été récompensé lui aussi puisqu'il a réussi à convaincre le gouvernement d'interdire la production, l'utilisation et la vente de la peinture au plomb. Et pour l'Europe, c'est la Française Claire Nouvian qui a été récompensée pour son combat au sein de son association Bloom, créée en 2005 pour préserver la biodiversité de l'océan. Cette association est basée à Paris. Nous avons donc pris rendez-vous avec Claire. Nous allons au 61 rue du Faubourg Saint-Denis, dans le 10e arrondissement. C'est dans le centre de Paris.
C'est pas du vent sur RFI.
Voilà, nous sommes arrivés. Nous allons donc rencontrer Claire Nouvian, qui n'en est pas à sa première distinction. À 43 ans, elle a été déjà désignée femme en or de l'environnement en 2012. Elle a reçu l'Ordre national du mérite, le prix de l'océan pour son sens politique en 2017 par une fondation américaine. Et si elle se fait remarquer, c'est pour sa combativité, sa capacité de travail hors normes, sa rigueur de l'expertise scientifique et surtout parce qu'elle remporte des victoires. Elle a grandi entre Alger, le 16e arrondissement de Paris et Hong Kong, une jeunesse nomade qui lui permet de parler 6 langues et d'aimer voyager. Voilà pourquoi elle est devenue documentariste en 1997. La suite, c'est elle qui va nous la raconter, car l'heure du rendez-vous a sonné.
Ah, il y a le logo sur la porte, c'est là.
Bonjour.
Bonjour.
Bonjour, Anne-Cécile.
Claire. Bonjour.
Félicitations pour votre prix.
Merci.
C'était donc le 23 avril, la remise du prix à San Francisco. C'était un moment fort pour vous ?
Comment vous dire ? J'étais concentrée quand même, donc je ne me suis pas laissée déborder par mes émotions parce que je me suis plutôt concentrée sur le fait que c'était une opportunité incroyable d'un point de vue médiatique parce qu'on a quand même des gens qui vous tendent le micro. Alors, il faut en profiter pour dire des choses qui ont du sens et qui, je l'espère, ont eu un impact.
Alors justement, état des lieux. Qu'est-ce qui se passe au niveau des océans ? Il y a vraiment des raisons de s'inquiéter.
Oui, il y a vraiment des raisons de s'inquiéter. Ça fait longtemps que les chercheurs s'inquiètent, d'ailleurs, pas seulement pour les océans, mais vous avez remarqué que 15 000 scientifiques nous alertaient sur une trajectoire de collision avec la nature. L'humanité, telle qu'elle elle consomme, telle qu'elle produit, telle qu'elle organise sa société, sa vie, n'est pas durable. On est en train d'avoir un impact qui est bien trop important, et ce n'est pas seulement pour le climat. C'est aussi la crise du vivant, les espèces qui disparaissent, les conflits pour l'accès à des terres arables qui vont après avoir des conséquences sur des conflits armés. C'est l'accès en effet à la nourriture, le braconnage des espèces, c'est le conflit pour des terrains. Et la pêche, c'est simplement un symptôme parmi tant d'autres d'une société qui a laissé détruire le monde sauvage, le monde naturel, au-delà de ce qu'il était envisageable de faire pour garder des équilibres. Donc le mal vient vraiment de loin en fait, on voit bien... que la colonisation même, ça a été le début d'une grande tendance à faire de la monoculture, à détruire des environnements entiers, à transformer des écosystèmes qui étaient stabilisés depuis des millions d'années, qu'on a perturbés en très peu de temps, en fait, en quelques décennies ou en quelques siècles. Donc l'érosion des sols, par exemple, qui est quand même un énorme problème mondial. L'érosion des sols, ça a vraiment commencé avec les grandes monocultures de l'époque de la colonisation, qu'elles soient espagnoles, françaises ou autres. Donc la pêche, c'est l'extraction de toutes ces ressources vivantes. Hein. Tous les poissons, ça devrait se faire de façon durable. C'est-à-dire que nous, on n'est pas du tout chez Bloom de l'avis qu'il faut laisser les choses intactes. Non, évidemment que tout prélèvement a un impact et ça doit être acceptable. Mais simplement, il faut chercher l'impact le moindre pour un impact, on va dire, positif sur les humains. Donc, quand on a une masse de poissons à l'origine ou de vie marine qu'on peut exploiter, il faut le faire de façon raisonnable, de façon à nourrir l'humanité. Ça devrait vraiment être ça, le premier objectif de la pêche. Et de façon à créer des emplois ou à maintenir les emplois sur le littoral ou à l'intérieur, puisqu'il y a aussi toute la transformation des denrées marines. Et ce n'est pas du tout ce qu'on fait. On est en zone de danger. Aujourd'hui, il y a entre 2 et 4 fois trop de bateaux sur Terre. Et ce sont surtout des bateaux industriels qui, aujourd'hui, sans son subvention publique, ne quitteraient quasiment pas le port. Si on ne donnait pas de l'argent public pour alimenter cette surcapacité de production, tous ces bateaux bien trop nombreux et qui font évidemment du coup de la surpêche, on n'aurait pas ce problème. Donc déjà, il faudrait couper les subventions publiques.
On va détailler un petit peu tout ça parce que votre association Bloom a de nombreux combats. On va essayer de les explorer un par un. Je le disais dans l'introduction de cette émission, à la base, vous étiez documentariste. Qu'est-ce qui s'est passé ?
Eh bien, il s'est passé que pendant des années, en effet, j'étais payée par des chaînes de télévision pour filmer tout ce qu'il y avait de beau dans le monde. Et je me suis rendu compte pendant des années qu'en filmer la beauté sauvage du monde, donc les animaux, les forêts, etc., eh bien, il fallait couper le plan à gauche ou à droite parce que, ben, à droite, il y avait une décharge et à gauche, il y avait une base militaire ou une centrale nucléaire. Ouais. Et je me suis rendu compte qu'en fait, on avait des poches. Et donc pendant toutes ces années, ça a été des années qui étaient formatrices pour moi parce que je me suis rendu compte que ce qu'on appelait le monde sauvage, enfin il n'était plus sauvage, c'était un monde sauvage totalement maîtrisé.
Mais pourquoi l'océan ?
L'océan, c'est une rencontre complètement fortuite. C'est-à-dire que j'ai travaillé sur plusieurs documentaires. J'adorais la forêt vierge, la jungle tropicale, et j'attrapais des maladies tropicales. Donc, j'avais déjà plus l'autorisation d'y aller de la part des hôpitaux. Mais c'est vrai que ma passion, c'était les oiseaux. Ça le reste, d'ailleurs. Mais comme tout le monde s'occupe des oiseaux, et c'est bien pris en compte, bien pris en main, alors ça ne veut pas dire que les oiseaux se portent bien. Mais en tout cas, la considération, les ONG, il y a quand même la Ligue pour la protection des oiseaux. Au niveau international, il y a BirdLife. Et ils font vraiment un très bon travail, en fait, de créer des réserves et tout. Et là, les océans sont très en retard par rapport au monde terrestre. Genre, au niveau terrestre, on a quand même au moins 12 ou 13% des terres qui sont protégées, alors que dans les océans, c'est 1%, même pas. Donc, on est vraiment très en retard, la prise en compte de l'océan, parce que c'est caché, c'est mobile. Et c'est vrai que les poissons sont moins charismatiques que les mammifères ou que les animaux à plumes. Hein. En général, on voit bien que les gens se passionnent pour les dauphins et les baleines, mais beaucoup moins pour les morues, quoi.
Il y a les morues, les poissons, et puis il y a tous les micro-organismes qui sont fascinants aussi. Et d'ailleurs, le logo de votre association, c'est un petit animal rigolo.
C'est un calamar cochonnet, donc c'est un petit céphalopode complètement mais craquant, hyper craquant, qui est tout petit et qui est en effet très gélatineux. C'est un céphalopode qui vit dans les grandes profondeurs et dont on ne sait quasiment rien, qui suit la même trajectoire de vie que des tas d'animaux profonds qui pourraient disparaître sans qu'on en ait même conscience en fait, et sans qu'on s'en préoccupe et sans qu'on le pleure.
Animaux profonds qui sont quand même largement méconnu du grand public, alors que pourtant c'est une richesse essentielle aussi pour la biodiversité.
Oui, alors ils ne sont pas seulement méconnus du grand public, ils sont même méconnus des chercheurs, hein, puisque la recherche dans les océans profonds est très récente par rapport au reste de la recherche. Donc on voit bien qu'on, là aussi, on a des wagons de retard par rapport à ce que la nature a pu inventer. Et le sujet, et c'est toujours le sujet des arbitrages scientifiques aujourd'hui, c'est que est-ce qu'on doit allouer des ressources à décrire le monde ? Ou est-ce qu'on doit allouer nos ressources à essayer de préserver ce qui peut encore être préservé, parce que on n'a pas assez d'argent public pour faire de la recherche dans tout ce qui mériterait d'être compris et investigué. Et à côté de ça, on voit bien que voilà, on a quand même des millions d'espèces qui restent à décrire, mais qui sont en phase d'extinction, puisqu'on est en train de vivre la 6e extinction de masse de la planète. Donc voilà, c'est compliqué de devoir arbitrer. Nous, on a arbitré, clairement, la recherche fondamentale, ça nous passionne, mais on a une mission, quand on fait de la recherche, c'est très appliqué. C'est pour répondre à des questions cruciales et urgentes qui se posent au quotidien dans les arbitrages publics.
Parce que l'océan, on n'en a pas toujours conscience, mais c'est un espace énorme, puisque c'est en moyenne, d'abord, ça occupe les 3/4 de la surface de notre planète, avec une profondeur d'environ 4000 mètres, c'est colossal.
Oui, c'est pour ça que c'est vrai que quand on pense à plat, en 2D, on pense que les océans occupent en effet les trois quarts de la planète. Mais si on rajoute en fait la profondeur, c'est-à-dire tout ce qui est en trois dimensions, là où la vie peut se développer, on n'est plus du tout dans les trois quarts de la planète, on est dans 99% de la planète. C'est-à-dire que les oiseaux, par exemple, ils ne vont pas nicher au-delà de 1 km d'altitude. Mais un oiseau, il ne va pas nicher dans les nuages, vous voyez, il va traverser les nuages, mais il ne va pas nicher dans les nuages. Alors que dans les océans profonds, il y a de la vie à tous les étages, y compris dans l'entre-deux-eaux, l'équivalent du ciel, mais des océans. Quoi. Dans l'entre-deux-eaux, il y a des animaux qui vivent leur vie entière dans l'entre-deux-eaux, sans ne jamais se rapprocher du fond. Donc c'est habité de haut en bas. Quoi. C'est un immeuble bien peuplé, les océans. Donc on est vraiment dans le plus grand espace vivable de notre planète.
Nous sommes au sein de votre association Bloom, là dans le centre de Paris. Dans la salle d'à côté, il y a tous vos collaborateurs qui travaillent discrètement. On ne les entend pas trop, on ira les voir tout à l'heure. Et on continue cette interview avec vous pour parler de votre première grosse action. C'était en 2008 et c'était la lutte contre le chalutage profond. Le chalutage profond, c'est une pratique industrielle dévastatrice. Vous avez une image très forte pour décrire le chalutage industriel et son impact. Vous décrivez son impact sur Paris, par exemple.
Oui, en fait, on a calculé que l'impact au sol d'un filet de pêche industriel, ceux qui sont utilisés par les chalutiers qui travaillent en grande profondeur, pouvait détruire une ville de la taille de Paris en 2 jours seulement de chalutage. Donc on voit bien que l'impact spatial, quoi, au sol, il est absolument gigantesque. En fait, un bateau, parce qu'on voit un bateau comme ça à la surface de l'océan, on peut se dire, tiens, voilà un grand bateau. Mais bon, ça fait un bateau par rapport à un très grand océan. Alors on se dit, ça va. Mais on ne voit pas tout ce qu'ils sont en train de traîner à l'arrière de leur bateau, parce que ça se passe à 2000 ou 1500 mètres de profondeur. Ils dévastent tout, comme ils ont d'ailleurs dévasté toute la côte de la Mauritanie en grande profondeur. Il y a cette dévastation aujourd'hui à laquelle on a mis fin en Europe, elle continue partout dans le monde.
Alors le principe, c'est donc d'aller pêcher un maximum d'espèces en un minimum de temps, mais le problème c'est que toutes les espèces pêchées en plus ne sont pas consommées, donc il y a un gaspillage colossal.
Un monstrueux, c'est la pêche la plus scandaleuse qui existe, puisqu'on va valoriser en général une ou deux ou trois espèces qui vont être ciblées par la pêche profonde, et ensuite toutes les autres espèces qui sont capturées, on les jette par-dessus bord parce qu'elles n'ont aucune valeur commerciale. Souvent les corps sont assez gélatineux, il n'y a pas vraiment de chair, donc hop, on balance ça par-dessus bord comme si c'était des déchets, et en plus on détruit l'environnement marin, c'est-à-dire qu'on détruit les éponges, les coraux. Il y a des coraux qui mettent 4000 ans à se former ou plus, donc ça c'est détruit, c'est-à-dire que ce qui a pu mettre jusqu'à en effet 5000, 10000 ou 30000 ans à se former comme des récifs coralliens très profonds qui vivent à 2000, 3000 mètres de profondeur, un passage de chalut, c'est terminé. Il suffit de quelques secondes pour écraser et faire disparaître tout ce génie du vivant. Quoi. C'est scandaleux.
Le chalutage profond, c'est à quelle profondeur ?
Eh bien, c'est en général jusqu'à 2000 mètres de profondeur, 2002, voilà, ça dépend des espèces qu'on va cibler. Souvent, par exemple, quand on va chercher dans certains océans, on va chercher les empereurs, on va jusqu'à 2000-2200 mètres de profondeur. Quand on va chercher des crustacés, certains crustacés, voilà, qu'on va chercher à 1008 ou à 1000. En fait, de toute façon, on a tellement vidé les océans de surface que toutes les pêches dans le monde se sont enfoncées. Donc toutes, même des espèces aussi communes que le cabillaud, par exemple. Le cabillaud, il était exploité à 50 mètres de profondeur il y a un siècle. Et maintenant, on va chercher les cabillauds à 600 mètres ou à 500 mètres. Donc tout s'est enfoncé. Les pêches mondiales se sont enfoncées parce qu'on a déjà capturé ce qui était accessible facilement.
On pêche de plus en plus profond et de plus en plus petit.
Alors, on pêche de plus en plus profond, on pêche des espèces nouvelles, c'est-à-dire que quand on arrive en profondeur, en général, on commence par attraper une espèce qui est comestible et qu'on rend comestible en la présentant au marché et aux consommateurs qui acceptent très facilement des nouvelles espèces à consommer, hein, sans se poser de questions. Et puis, on se rend compte que cette espèce-là, assez rapidement, on l'amène à extinction commerciale. Et donc, l'espèce qu'on va valoriser, la prochaine espèce, ce sera un poisson qu'on jetait encore il y a 5 ans. Si du jour au lendemain, on faisait manger les poissons qu'on mange aujourd'hui à nos grands-parents qui mangeaient les bonnes choses, on va dire, il y a 100 ans en bord de mer, ils seraient quand même ahuris de voir qu'on accepte de manger tout et n'importe quoi, en fait.
Donc, chalutage profond, début de la campagne en 2008, comment ça s'est passé ?
Eh bien, ça s'est passé au début naïvement, c'est-à-dire que je pensais qu'il suffisait d'alerter les pouvoirs publics sur des pratiques qui étaient totalement scandaleuses pour que tout cela prenne fin. Et donc, j'avais écrit une lettre à Sarkozy en lui envoyant mon livre sur les abysses et en lui disant que c'était une aberration, cette pêche profonde, et que la France était un des acteurs principaux de la pêche profonde dans le monde, parmi les 7 acteurs les plus importants, hein, aux côtés du Japon, de la Corée, de la Russie, de la Nouvelle-Zélande. Enfin, on avait notre place, hein, et l'Espagne. Et donc, j'ai été reçue par le cabinet de Sarkozy à l'époque. C'était au début, quand Sarkozy était fréquentable. Les deux premières années où il avait vraiment envie d'intégrer un peu la société civile, d'être ouvert d'esprit. Vous vous souvenez, c'était avant le salon de l'agriculture où il a retourné sa veste et il a dit « les écolos, il y en a marre ». Et on avait discuté avec Jean-Louis Borloo à l'époque, justement, du Grenelle de la mer qu'il lançait en lui disant qu'il y avait des grandes choses à faire, notamment établir des aires marines protégées, puisque la France est le deuxième territoire mondial au niveau des océans. On a vraiment une énorme puissance maritime. Et que nos territoires n'étaient globalement pas protégés contre les abus des industries extractives, mais aussi dans les extractions de poissons, de ressources vivantes. Il n'y a pas que les ressources non vivantes. Et donc, on a tout de suite attaqué sur cette question des aires marines protégées et du chalutage profond. Et donc voilà, évidemment, là, tout de suite, les industriels se sont réveillés et on est allé titiller l'ours au fond de sa cage. Et il a bien vite sorti les griffes. Donc, ça a été le début d'un combat long et désespérant, parce que je pensais aussi naïvement à l'époque. J'ai perdu toute forme de naïveté, je vous confirme que ça y est, ça c'est réglé. Et à l'époque, je pensais naïvement qu'il suffisait de partager la science avec le monde et que ça allait éclairer les âmes des citoyens et des décideurs publics, vous voyez, un peu la nouille. Donc voilà, j'en étais là. Et donc j'avais résumé tout ce qui existait en publication scientifique pour le Grenelle de la mer, en montrant qu'il y avait, je crois, quasiment... il y avait 110 publications ou quelque chose comme ça qui traitaient directement de la pêche profonde, du temps que ça allait prendre pour les requins profonds se remettre de toute cette exploitation, etc. Tout. J'avais tout épluché. Je me suis rendu compte qu'évidemment, qu'est-ce qu'il faisait avec notre science ? Ben, il ricanait, il la mettait à la poubelle. Donc, on était avec la grande déception. Une recherche d'État, donc un rapporteur dans le Grenelle de la mer qui était supposé être quelqu'un neutre, qui était un chercheur de l'Ifremer, qui était vraiment le couteau politique de l'Ifremer, qui était là pour faire le service des industriels. Les pouvoirs publics, évidemment, triés sur le volet, ils avaient pris des élus du bord de la côte atlantique et de Bretagne, etc. Donc je ne vous dis pas que...
Des personnes qui avaient des intérêts économiques dans l'histoire.
Tous des intérêts économiques, politiques. Et donc voilà, on a assisté dans ce Grenelle de la mer à... C'était très très formateur, hein, mais à l'orchestration d'un mensonge tripartite en fait entre élus, recherche publique et industriels. On a compris qu'il fallait nommer un chat et que finalement on n'arriverait à rien avec des bandits pareils et qu'il fallait les mettre en défaut. Et donc nommer ce qu'ils faisaient, nommer les mensonges, nommer la corruption morale qui avait lieu dans ces consultations et tout ça. Donc ça a commencé de façon très musclée.
Et c'est là où vous êtes attaqué à Intermarché, qui pêchait des milliers de tonnes à l'époque par an en chalutage profond. Et là, vous avez entamé une véritable guerre contre Intermarché en prouvant notamment que leur industrie n'était pas rentable. Ça a été ça votre arme fatale ?
Oui, je pense qu'in fine, en tout cas de façon rétroactive, je pense qu'en effet, montrer aux Français que l'argent de leur travail, l'argent de leurs impôts servait directement à détruire l'environnement marin, à détruire les emplois en donnant cet argent à des industriels qui n'étaient pas rentables et qui étaient pourtant subventionnés, ça c'est assez mal passé dans l'opinion publique. Et je pense qu'in fine, c'est ça qui a fait un peu le point de bascule dans notre campagne. Mais on ne s'est pas attaqué uniquement à Intermarché. Au début, on voulait montrer qu'il y avait un business model, donc un modèle vraiment économique de la pêche industrielle, qui était la pêche industrielle profonde, sans subvention, n'existerait pas. Il n'y aurait même pas ce problème au niveau planétaire. Et ce qu'on a montré en France est vrai de toutes les nations de pêche profonde. Et donc, on a montré ça pour tous les opérateurs de pêche profonde en France. Et on a essayé de collaborer avec eux. Et c'est parce qu'on leur avait demandé, mais dites-nous combien vous recevez de subventions. Et que la réponse était, mais on n'est pas subventionné. On disait, mais bien sûr. Et donc, comme ils ont refusé l'accès aux données, on est allé se servir, en fait. Et donc, on a montré le modèle économique. Et c'est là qu'on a montré cette piètre performance économique qui coûtait aux Français. Qui coûte aux Français, qui continue à... La pêche industrielle coûte aux Français. Donc on détruit, on participe à la destruction de l'emploi et la destruction du milieu marin. Et donc c'est voilà. Et après, évidemment, c'est devenu un face-à-face assez violent avec Intermarché parce que c'était la plus grande flotte de pêche industrielle en France. Et du coup, ils bloquaient le sujet au niveau européen. Donc en fait, il y a eu un vote du Parlement européen en décembre 2013 qu'on a perdu à 9 voix près. Donc là, on était avec Sabine Rosset, ma collègue, dans le désespoir le plus total parce que en fait, on avait perdu face au mal, le mal, l'incarnation du mal, les mensonges, la transformation de la réalité, des menaces à l'emploi qui n'existent pas, des menaces sur nous-mêmes, nos personnes, etc. Et les parlementaires européens, alors qu'ils voyaient bien ce dont on parlait, c'est un sujet où il n'y avait pas de discussion à avoir. La pêche profonde, c'est genre mauvais, mauvais, mauvais. Un enfant de 5 ans le comprend. C'est mauvais économiquement, c'est mauvais écologiquement, c'est mauvais pour l'emploi, c'est mauvais pour tout. Donc il n'y avait même pas de discussion à avoir. Et les parlementaires qui subissent vraiment très fortement l'influence des lobbies industriels ont quand même voté à 9 voix près avec eux. Et là, on était vraiment désespérés. Mais notre pétition était en train de flamber. Donc on était en décembre 2013 et en janvier 2014... Juste après le vote, Intermarché nous a tendu la main parce qu'en effet, les citoyens, et merci à eux, merci et merci et merci, et nous on le dit sans cesse, c'est parce que les citoyens sont allés râler dans les supermarchés, qui sont allés chez Intermarché leur dire « Vous détruisez l'environnement, vous avec votre saleté de pêche profonde, etc. » Et les directeurs de magasins finissaient en avoir, mais par-dessus la tête, si vous voulez, d'avoir tout le temps un feedback exécrable depuis les rayons, voilà, les vendeurs de poissons qui leur disaient « Mais faut qu'on arrête là, on s'en prend plein la tête !» Et c'est ça qui a fait la pression. Donc une pétition plus une vraie mobilisation des citoyens, je vous jure, ça fait une différence monstrueuse. Et donc, grâce aux citoyens, on a gagné. C'est-à-dire qu'en fait, Intermarché a craqué sous la pression des citoyens. Il nous a demandé, en effet, si on pouvait négocier. On a négocié. Et l'accord qu'on a trouvé, c'est-à-dire qu'ils arrêteraient de pêcher en profondeur au-delà de 800 mètres juste un an après, c'est-à-dire en janvier 2015, du coup, ça allait entraîner tout le jeu de dominos politiques au niveau européen. Et après, il y a eu cette interdiction au-dessous de 800 mètres au niveau européen. Mais on est resté en relation avec Intermarché. Ils se sont engagés à arrêter toute pêche profonde au plus tard d'ici 2025. Donc on leur avait dit 800 mètres, c'est bien, mais c'est l'urgence. Mais à long terme, il ne faut même pas pêcher à 800, à 700, à 600, etc. Il faut aller vers une pêche durable. Et la pêche industrielle, avec du matériel très lourd, des engins qui sont traînés, sur le fond, comme ça, ça ne peut pas être durable. Donc on est encore dans cette discussion-là, on n'arrête pas d'avancer.
Des questions, des réactions ? Rendez-vous sur la page Facebook de l'émission.
Claire Nouvian, vous êtes fondatrice de l'association Bloom. Vous venez de recevoir le prix Goldman, qui est l'équivalent du prix Nobel pour l'environnement. Nous sommes au sein de votre association. Vous avez combien d'employés aujourd'hui au sein de l'association ?
Alors, on est 8. Moi, je suis bénévole et donc on a 7 salariés plus un bénévole à plein temps.
Donc, ils travaillent juste dans la pièce à côté. Et l'un des éléments, l'un des piliers d'action important aussi pour Bloom, c'est l'enseignement, la pédagogie.
Alors, on n'a pas assez de monde et pas assez d'argent pour le faire de façon autre que stratégique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être dans les écoles, il y a trop d'écoles. Donc, on choisit des partenariats avec des gens qui vont dans les écoles. Donc déjà, on essaie de produire du contenu qui est pédagogique au sens où il est facile d'accès. On ne reste pas dans des langages trop spécifiques, trop scientifiques. On le traduit toujours en termes vernaculaires, on va dire. Ça tombe mal pour les mots pas compliqués. Mais on fait des BD, on fait des schémas, on fait des beaux livres, on fait tout ça. Et on essaie justement de s'associer à des gens créatifs. D'une part, et on fait aussi de l'enseignement supérieur, parce que ça, c'est assez stratégique d'aller parler, en tout cas d'intervenir dans des cours, par exemple à l'agro ou à Sciences Po, où on va former les futurs ingénieurs agronomes ou les futurs décideurs publics. Donc là, on choisit, en effet, on fait des frappes chirurgicales dans l'enseignement supérieur pour aller parler aux futurs décideurs, tout en gardant en fait toujours une exigence qui est celle de la coopération. C'est-à-dire que dans tout ce qu'on fait, on essaie toujours de générer la coopération entre les gens, parce qu'on s'est rendu compte, et les chercheurs de l'éducation se sont rendu compte, que quand on apprenait aux enfants dès le plus jeune âge, d'ailleurs, à coopérer, à produire de façon coopérative du contenu, des résultats, en fait, ils trouvaient des ressources très grandes pour l'avenir. C'est-à-dire que du coup, ils se faisaient confiance. Enfin, la France est quand même très caractérisée par une société de la défiance. On se méfie les uns des autres, on se méfie de nos autorités, on se méfie de tout le monde. Alors qu'en fait, la confiance, ça se construit. Ça se construit par la pédagogie. Donc nous, à chaque fois qu'on fait du contenu, on insiste sur la coopération. Quand on fait des jeux concours, les enfants doivent coopérer ensemble. Ils doivent apprendre à respecter le regard et la contribution de l'un de l'autre. Et donc c'est aussi la base de l'enseignement de l'empathie. Et si le monde devient plus empathique, on va régler un gros problème. On réglera le problème de l'égoïsme, de la cruauté, et du coup, le job sera fait, quoi.
Alors qui s'occupe de la pédagogie chez vous ?
Ouais, c'est Sabine Rosset qui s'occupe. Pas seulement de la pédagogie, elle s'occupe de tout, de veiller à tous les programmes de Bloom, etc. Mais c'est vrai qu'en particulier, la pédagogie, il n'y aurait pas de programme avec les écoles si elle ne s'en occupait pas.
On va la voir ?
Ah ben oui, carrément.
On va venir vous déranger quelques minutes, bonjour.
Je sors là, je me cache.
Pourquoi vous ne voulez pas parler devant tout le monde, c'est ça ?
Mais Claire, t'as tout dit, j'ai plus rien à dire.
Non, on va trouver des sujets, on va trouver des questions. Vous pouvez vous présenter ?
Donc Sabine Rosset, je travaille chez Bloom depuis 2012. En réalité, ce qui est amusant, c'est que à l'époque, en fait, entre 2012 et 2014, on était bien plus présent au niveau pédagogique que maintenant. Peut-être parce qu'on a plus de sujets aujourd'hui. En tout cas, notre objectif était vraiment de transmettre à des jeunes publics les problèmes environnementaux pour qu'ils prennent conscience assez rapidement de ce qui se passe, et notamment autour de l'océan.
Alors surtout les 6-12 ans, alors vous avez fait quoi ? Des spectacles, des livres, comment ça se passe ?
Alors d'abord, on a organisé pas mal de jeux concours dans les classes, qui rassemblaient en moyenne à peu près 1000 élèves participants, ce qui était assez, assez énorme, sur le thème des abysses. Ça, c'était pour faire vraiment découvrir les abysses et les problèmes soulevés par le chalutage profond. Ensuite, on nous a demandé de participer, de contribuer, de fournir du contenu, en fait, dans des livres assez différents. Un livre écrit par Faustine Brunet sur la disparition des poissons, en fait. Donc les poissons ont disparu, sur lequel nous on a apporté un contenu un peu scientifique et rigoureux, en fait. On a participé à un conte musical qui s'appelle « Les symphonies subaquatiques », qui a été coécrit par Valérie Bourg, qui était une réalisatrice de France Inter, et qui a été transformé ensuite en spectacle musical, qui est toujours joué dans les écoles.
Je m'appelle Adrien, je suis intimidé par Phébus, le dauphin, que je vais rencontrer. Son histoire m'impressionne, et il doit se méfier, abîmé par les hommes qui l'ont emmené.
Soyez les bienvenus, voyageurs au long cours. Puisque rien n'est perdu, évitons les J'attendais l'être pur qui serait différent et dont l'espoir perdure de sauver l'océan.
Vous avez fait aussi une exposition itinérante, enfin, vous avez fait plein de choses parce que sensibiliser les enfants, c'est essentiel.
Ah ben, c'est primordial, parce qu'il faut qu'ils, voilà, il faut qu'ils prennent conscience de ce qui se passe dans notre monde. L'océan est quand même très éloigné de notre quotidien. Donc on a un double effort à faire pour justement que cette conscience arrive dans les esprits. Et les enfants sont bien plus sensibles que nous, adultes, justement à la préservation des ressources et des écosystèmes marins. Donc en général, on a toujours un public très attentif. On est très présent sur des festivals dans lesquels on propose, en fait, donc on sensibilise finalement tout le monde, toutes les générations sur les festivals, donc Alternativa par exemple, le Philippe, le festival du livre et de la presse de l'écologie. Et en fait, on organise toujours des ateliers pour les enfants, destinés aux enfants. Donc on leur apprend à découvrir les méthodes de pêche, on leur fait situer des espèces de poissons dans l'océan avec différentes profondeurs. Donc on essaye toujours d'éveiller la sensibilité des enfants à l'océan. On est présent sur d'autres festivals un peu différents, des festivals musicaux par exemple, sur lesquels on demande toujours notre présence pour sensibiliser justement sur la pêche, toujours les méthodes de pêche et la consommation, parce que c'est super important. Qu'est-ce que je peux manger comme poisson? Comment est-ce que je peux agir à mon niveau pour faire bouger les lignes? Et dans ces cas-là, on est là pour apporter l'information.
Des questions, des témoignages, des idées? Écrivez-nous à c'estpasduvent@rfi.fr.
Claire Nouvian, il y a un autre combat que vous menez depuis quelques temps et qui est encore d'actualité hein, pour un bon moment, c'est la pêche électrique. Alors de quoi s'agit-il?
Eh bien, la pêche électrique, c'est cette idée merveilleuse qu'ont eu les Néerlandais d'équiper les chaluts de fond. Donc on voit bien ce que c'est hein, maintenant, un chalut de fond, un filet bien lesté qui racle bien le fond. Et ben maintenant, on rajoute en plus des électrodes de façon à envoyer un courant électrique qui va carrément déloger les animaux du sédiment. Comme si ça suffisait pas de les racler, il faut aussi les sortir du sédiment quand ils s'y cachent, comme les poissons plats. Vous voyez, comme les sols, les plis, tout ça qui vivent enfouis. Donc là, c'est radical. Les poissons, ils sortent du sédiment comme du pop-corn. Donc évidemment, c'est radicalement efficace pour gagner de l'argent. Donc les industriels se frottent les mains. C'est la poule aux œufs d'or. Ça permet vraiment des pêches miraculeuses. Hein. Vous imaginez que vous pouvez attraper tout ce qui reste dans les océans.
Alors c'est une pêche miraculeuse au bilan économique contrasté, ça dépend des pays comme nous l'entendons dans ce reportage de nos collègues de France 2.
Dans les eaux de la mer du Nord se joue depuis quelques années un affrontement à distance, une bataille entre pêcheurs français et néerlandais. La raison, une technique encore méconnue, la pêche électrique. D'un côté, les Néerlandais se frottent les mains.
Je gagne 20% de plus.
De l'autre, des pêcheurs français aux abois.
Je peux même plus me sortir de salaire, donc c'est plus viable. Actuellement, je vends mon bateau.
Comment en est-on arrivé à cette situation? Pourquoi la pêche électrique crée-t-elle autant de tensions en mer du Nord? Aux Pays-Bas, le port de Den Helder est le berceau de la pêche électrique. Pour capturer de la sole, 7 bateaux sont équipés de ces immenses filets chargés d'électrodes.
Contrairement aux petits, les gros poissons subissent une charge électrique. Dès qu'ils sont touchés, ils nagent vers le filet.
Cette technique est autorisée depuis 2006 à titre expérimental dans tous les pays de l'Union européenne, mais les pêcheurs néerlandais sont quasiment les seuls à la pratiquer. Selon eux, cette méthode a un avantage principal. Elle fait consommer moins de carburant au bateau, car le moteur tourne à plus faible régime.
La pêche électrique, c'est rentable pour moi et c'est bon pour la nature, car je consomme 60% de fuel en moins.
Des questions se posent aussi autour des autres poissons qui ne sont pas pêchés. Peuvent-ils encore se reproduire après avoir subi une charge électrique? La ressource est-elle en péril? Pour les pêcheurs français, ce n'est pas une crainte, c'est un constat sans appel.
Pour pouvoir faire une bonne journée, il faut au minimum mettre une moyenne de 100 à 150 kg de sol par jour. Aujourd'hui, on est à une moyenne de 50, 40. Vraiment, c'est le strict minimum. On est arrivé dans un milieu avec leur pêche électrique, donc ils sont en train de nous flinguer. Ça, c'est sûr et certain. Si ça continue comme ça, d'ici peu, il n'y aura plus de métier, le métier courant.
Claire Nouvian, cette pêche électrique, elle est autorisée depuis 2006, mais à la base, c'était uniquement à titre expérimental, c'est ça?
Mais surtout, elle est interdite en Europe. Et elle est autorisée uniquement par le biais de dérogations, des exemptions qui ont été retirées, je pense, au forceps du lobbying politique des Néerlandais à la Commission européenne. Donc en fait, ça reste une pêche interdite. Et c'est sous forme d'exception qu'on l'autorise. Et a priori, voilà, pour faire de la recherche expérimentale. Et c'est tout sauf de la recherche. On sait très bien finalement que c'était de la pêche uniquement commerciale et que cette méthode de pêche aurait dû rester totalement interdite. Donc nous, ce qu'on demande, c'est une interdiction aux exemptions. Il n'y a pas à avoir, à mettre en place et à tolérer un régime de faveur pour une méthode aussi radicale. C'est la solution absolue à tous leurs problèmes industriels. Certes, ils gagnent de l'argent, ils font des économies de carburant puisqu'ils n'ont pas besoin de pêcher aussi longtemps qu'avant, mais ils sont en train de tuer l'océan et du coup de tuer tous les pêcheurs.
Alors il y a plusieurs personnes qui travaillent avec vous, il y a des personnes qui travaillent évidemment sur la pêche électrique.
Oui, alors on a vraiment une chercheuse formidable, Laetitia Bizio, qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui a fait tout le travail de recherche et qui continue à éplucher tout ce qui se dit et se fait et se calcule et se pense d'un point de vue scientifique sur la pêche électrique. Et notre collègue Mathieu Colletter aussi, qui est halieute de formation et qui a pris aussi le relais au niveau politique, pour essayer de comprendre et de ce qui se passait et ce qui se cuisinait en fait au Conseil, donc c'est-à-dire au niveau des États membres, parce qu'on est rentré dans des phases de négociations tout à fait secrètes. Et donc le sort de la pêche électrique, savoir si oui ou non elle va retourner à ce qu'elle devrait être, c'est-à-dire interdite en Europe, va dépendre du talent de Mathieu Colletter.
Que nous allons rencontrer, donc, qui est dans la pièce à côté. Bonjour Mathieu.
Bonjour.
Bonjour.
Donc Claire Nouvian nous disait à l'instant que vous scrutiez tout ce qui se passait au niveau politique concernant la pêche électrique. Alors il y a eu quand même des victoires, hein, puisque la Commission européenne voulait autoriser cette pratique à une plus large échelle en mer du Nord, et il y a eu un vote du Parlement européen qui est plutôt prometteur.
Bah, un vote très positif et puis qui est porteur de beaucoup d'espoir et qui traduit une volonté forte du Parlement européen, en tout cas, de voir cette pêche électrique interdite et donc ce régime de dérogation interdit. Et à l'heure actuelle, donc, c'est débattu dans le cadre du trilogue, donc, qui réunit à la fois le Parlement européen, la Commission européenne et le Conseil. Le Conseil européen, donc avec tous les ministres de la pêche des différents pays, qui a un rôle très important. Et donc, on a des négociations en ce moment entre les différents États et différents pays, avec différents points de vue. Donc, notamment, voilà, les Pays-Bas qui sont pour continuer ces dérogations et continuer la pêche électrique. Et en l'occurrence, la France qui s'est affichée contre cette pratique de pêche.
Alors, tout ça, ça donne quoi ?
Eh ben, tout ça, pour le moment, ça donne pas grand-chose, à vrai dire. Et c'est ça qui est un peu décevant, c'est qu'on a beaucoup d'affichage politique et on a une volonté affichée de l'État de faire interdire cette technique de pêche au niveau européen. Mais pour le moment, globalement, on n'a pas de résultats. On n'a pas de pays qui soutiennent la position française. On n'a pas, on va dire, un élan européen contre cette technique de pêche. Et pour le moment, on reste sur une position très franco-française avec une diplomatie d'affichage. Mais dans les faits, on se demande si vraiment il y a le travail qui est fait derrière, et c'est ça qui nous inquiète beaucoup.
Alors en attendant, le 16 avril, votre association Bloom a déposé plainte contre les Pays-Bas ?
Oui, tout à fait. On avait déposé une première plainte en octobre l'année dernière, donc sur l'illégalité, enfin ce qu'on considère comme des licences illégales, c'est-à-dire ce régime des dérogations qui a été abusé par les Pays-Bas et donc avec un grand nombre de licences aujourd'hui. Et donc on a porté plainte une première fois. La Commission est revenue vers nous en disant qu'elle rangeait cette plainte dans un système qui s'appelle le EU Pilot. Nous on appellerait ça un peu une voie de garage, c'est-à-dire que c'est une sorte de système où la Commission va demander des éclaircissements à l'État membre, mais bon voilà, il n'y a rien de véritablement, il n'y a pas de procédure qui est lancée. Donc on a reçu une réponse et on a répondu à la Commission en lui demandant d'être vraiment impartial, notamment parce qu'on a déposé cette deuxième plainte en avril sur l'illégalité des subventions à la pêche versées, puisque dans le cadre de cette pêche qu'ils ont caractérisée d'innovante, cette pêche électrique, les Pays-Bas ont touché des subventions européennes. Et donc on a porté plainte pour avoir touché ces subventions de manière illégale, puisque la recherche, et ça a été montré notamment par un journaliste néerlandais, que la recherche n'avait pas du tout été faite.
Est-ce que c'est toi par hasard qui fabrique les tempêtes, les typhons, les tornades et les cyclones ? Est-ce que c'est toi qui les lance sur la mer quand ça te fait plaisir ?
Pour nous écrire, c'est pas du vent @rfi.fr.
Nous sommes toujours dans le centre de Paris, au sein de l'association Bloom. Nous avons parlé du chalutage profond, de la pêche électrique, et maintenant nous allons parler d'un sujet qui est dans l'actualité cette semaine. Il s'agit des subventions publiques à la pêche, parce que Claire Nouvian, il y a des négociations cette semaine importantes.
Oui, alors l'Organisation mondiale du commerce est en train de discuter de savoir s'ils vont trouver un accord ou pas sur l'élimination des subventions qui alimentent la surpêche et la surcapacité de production, c'est-à-dire tous ces bateaux de pêche globalement, surtout industriels, qui vident les océans et qui tuent les emplois. Et du coup, on a quand même les objectifs de développement durable qui ont été adoptés par l'Assemblée générale des Nations unies en 2015. Vous vous souvenez de cet agenda 2030 qui donne 17 objectifs à l'humanité et aux pays pour leur dire, si vous voulez lutter contre la pauvreté, la faim dans le monde, le changement climatique, etc., voilà tout ce qu'il faut faire. Et l'objectif de développement durable numéro 14, il concerne les océans. Et il a un sous-objectif, le 14.6, qu'on chouchoute, parce que le 14.6, il dit que d'ici 2020, on doit avoir éliminé les subventions néfastes, c'est-à-dire l'argent public qui encourage la surpêche et la surproduction de poissons, la surcapacité des navires dans le monde. Et aussi la pêche illégale. Donc cet objectif de développement durable, il en appelle très explicitement à l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, pour faire le job, en leur disant, vous êtes un outil de gouvernance internationale qui est contraignant.
C'est le seul.
C'est le seul, avec la CITES, il y a aussi la Convention sur les espèces menacées. Et donc on a un outil contraignant. Quand on a un accord sur le commerce, en fait, au niveau de l'Organisation mondiale du commerce, c'est un accord qui s'impose à toutes les nations qui sont membres de l'OMC. Il y a 164 pays dans le monde, donc ça nous intéresse évidemment au premier chef de savoir si oui ou non l'OMC va aboutir à un accord contraignant pour mettre fin à cette motivation financière, parce qu'en fait c'est un robinet. Vous imaginez un robinet dont jaillissent des billets de banque. Si on coupe le robinet, on met fin à la surpêche.
Alors vous êtes bien organisé chez Bloom, vous avez un directeur scientifique, vous pouvez nous le présenter, il nous a rejoint.
Oui, alors c'est Frédéric Lemanac qui est aussi docteur, qui a fait sa thèse justement sur les accords de pêche, c'est-à-dire les contrats monnayés par argent public, donc des subventions publiques entre, en l'occurrence, il a fait sa thèse sur l'Europe et les accords de pêche que signait l'Europe avec l'Afrique et l'océan Indien. Parce que on se retrouve dans cette situation où les flottes industrielles européennes ou occidentales ont tellement pêché autour de chez elles qu'elles sont obligées d'exporter leur surcapacité de production. Donc on exporte notre outil de travail et on va voler les poissons des autres maintenant. Et on le fait par le biais de contrats qui sont souvent assez iniques. Et ça a été l'objet du travail de Frédéric Lemanac qui, comme il est passionné par le sujet des subventions, comme nous tous chez Bloom, continue la bataille sur les subventions au sein de Bloom.
Bonjour Frédéric Lemanac.
Bonjour.
Alors, ces subventions publiques, quand je regarde le site de Bloom, il y a un chiffre, 35 milliards de dollars de subventions, dont 60% jugées nocives.
Oui, c'est un chiffre qui circule, donc qui est un chiffre qui a été estimé par des chercheurs internationaux, principalement par Rachid Soumaïla, qui est basé à Vancouver. Et donc c'est un chiffre qui est assez incroyable, puisqu'effectivement, 35 milliards de dollars, dont 60% qui vont à la destruction de l'océan et des écosystèmes marins, ça peut paraître une idée assez mauvaise. Et donc, nous, c'est vraiment le nerf de la guerre, quoi. Pour nous, les subventions, c'est le moyen radical de régler les problèmes de surcapacité et de surpêche au niveau mondial.
Parce qu'en fait, c'est un cercle vicieux. C'est-à-dire que les États subventionnent des pêcheurs en leur payant, par exemple, leurs bateaux, leurs filets de chalutage profond, etc. Mais sans ces subventions, ces pêcheurs ne pourraient pas travailler. Donc ce n'est pas rentable à terme, c'est comme un malade dans le coma sous perfusion.
C'est exactement ça. Effectivement, sans subvention publique, la plupart des navires industriels resteraient à quai. Donc ces subventions, elles peuvent prendre beaucoup de formes différentes. Ça peut effectivement être de l'argent direct pour acheter des navires, pour acheter des moteurs. Ça peut aussi être ce qu'on appelle des subventions indirectes, donc par exemple des détaxes sur le carburant. Ça, c'est un gros poste au niveau mondial et qui, effectivement, va favoriser en priorité les gros navires industriels, puisque ce sont ces gros navires industriels qui dépendent vraiment, qui font consommer énormément de carburant. Donc, régler le problème des subventions au niveau mondial, c'est aussi un problème d'équité entre les différents types de pêcheurs, puisque là, actuellement, les pêcheurs artisans, d'une part, souffrent de l'impact des pêcheurs industriels parfois dans leurs eaux, mais en plus, ne reçoivent pas les subventions qui permettent de maintenir à flot ces pêcheurs industriels. Donc on est vraiment dans un système qui est assez malsain et qu'il faut résoudre assez vite.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Claire Nouvian, on a entendu pendant toute cette émission à quel point votre association Bloom et tous ceux qui sont autour de vous, et vous-même évidemment, êtes engagés pour la défense de la biodiversité des océans. L'année dernière, en 2017, il y a des dizaines de défenseurs de l'environnement qui ont été assassinés parce que c'est difficile dans certains pays d'oser se battre pour la préservation de l'environnement. Qu'est-ce que vous avez envie de dire, vous qui venez de recevoir ce prix Goldman pour l'Europe, à ceux qui nous entendent et qui auraient envie de s'engager, qui n'osent pas, ou qu'est-ce que vous auriez envie de dire ?
C'est compliqué parce qu'en fait, c'est vrai qu'en recevant le prix Goldman, j'étais flattée, mais en même temps, je me sens un peu illégitime par rapport aux risques qui sont pris par certains des lauréats qui ont reçu le prix en même temps que moi, comme Francia Marquez, une Colombienne qui est maintenant protégée parce que sa vie est en danger, etc. Et on voit le prix à payer, c'est évidemment le cas de Berta Cáceres, cette femme qui s'est battue au Honduras contre l'établissement d'un immense barrage de Siemens, qui a été assassinée brutalement, mais ils ont vraiment cherché à l'assassiner, enfin c'était pas un hasard, qui a reçu des dizaines de menaces avant qu'il ne passe finalement à l'acte. Donc elle savait que c'était une question de temps. Elle savait qu'elle allait y passer. Hein. Elle avait mis ses enfants en sécurité. Mais elle continuait à se battre. Et en fait, je ne sais pas quoi. Enfin, c'est un tel niveau d'héroïsme, en fait, que je ne sais même pas, ça me laisse sans voix. Et ils ont eu sa peau. Et en fait, on voit bien que ce sont des milices armées qui sont souvent parfois les militaires directement, qui sont souvent commandités par les autorités. Et donc, quand on n'est même pas protégé par son propre gouvernement, ça pose quand même vraiment des questions, et c'est le cas de nombreux lanceurs d'alerte ou protecteurs de l'environnement ou des droits de l'homme en Amérique du Sud et en Afrique, parce que ce sont vraiment les deux régions les plus dangereuses où défendent en effet soit les droits des peuples, soit les droits de la nature. Et donc d'abord je leur tire surtout ma révérence la plus profonde, parce que c'est l'admiration la plus forte que j'ai pour des êtres humains. En fait, il n'y a personne que j'admire plus que ces combattants-là. Donc ouais, beaucoup d'admiration et beaucoup de courage. Et ensuite, à ceux qui se battent pour l'environnement, contre la corruption, parce que ça revient au même, hein. Se battre pour les droits humains ou pour la nature, c'est se battre contre la corruption des systèmes et le pouvoir des multinationales. Et donc à ces individus-là, je leur dirais, chercher au plus vite la lumière des médias, parce que en fin de compte, il y a quand même toujours des journalistes qui sont intéressés pour raconter et dévoiler la corruption au cœur des systèmes, et parfois ça les expose à encore plus de dangers, mais ça permet aussi de construire une communauté qui soutient les combats.
Merci Claire Nouvian.
Merci à vous.
Si vous êtes une association de protection de l'environnement particulièrement spécialisée dans la pêche ou la protection de la biodiversité des océans, sachez que Claire Nouvian et l'association Bloom seraient très intéressées de travailler avec vous. Donc n'hésitez pas à les contacter par notre intermédiaire. Vous pouvez nous envoyer un mail à cepasduvent, tout attaché en minuscule, @rfi.fr. On se retrouve demain, même planète, même heure.